Les Palestiniens vont devoir se présenter à l'Assemblée générale parce que là, à l'évidence, l'écrasante majorité des États de la communauté internationale sont favorables aux demandes palestiniennes. Tous les États, pratiquement à l'exception de quelques-uns, se rendent compte que cette situation est intenable et est même dangereuse sur le plan de la sécurité de l'ensemble de la région du Proche-Orient. Dans ce scénario, les Palestiniens n'auront pas un État à part entière, mais ils auront un État observateur, alors que pour l'instant, c'est l'OLP qui bénéficie à l'Assemblée générale d'un statut d'observateur. Le fait que les Palestiniens bénéficient de ce nouveau statut rehaussé permettra aux Palestiniens de recourir à la Cour internationale de justice pour éventuellement dénoncer et condamner les pratiques israéliennes dans les territoires occupés. Et en même temps, ce sera une victoire symbolique.
Cette initiative palestinienne à l'ONU peut-elle être responsable d'une détérioration de la situation sécuritaire dans les territoires palestiniens en Israël?
Tout dépendra de la manière dont Israël pourra riposter. Je crois que les Israéliens commettraient une erreur très très grave de chercher finalement à poursuivre leur politique actuelle qui est dénoncée par la majorité des États de la communauté internationale et qui isole Israël sur la scène internationale. Israël compte sur un veto automatique des États-Unis, et cela depuis plusieurs décennies. Si les États-Unis exercent leur veto cette fois-ci, ce sera le 44e veto américain en faveur d'Israël. Cela non seulement va décrédibiliser la politique d'Obama, mais cela également risque bien de dilapider le crédit d'Obama auprès des opinions arabes et musulmanes, notamment depuis le lancement du printemps arabe. Donc là, c'est un message que les Nations Unies doivent envoyer non seulement aux Palestiniens, mais aux Arabes, pour dire, bon, on va arrêter ce carrousel des promesses jamais tenues et passer à l'acte en reconnaissant la proclamation d'un État palestinien à part entière dans l'enceinte des Nations Unies.
L'Union européenne a pour sa part annoncé avoir pris note de la volonté des Palestiniens d'adhérer à l'ONU, mais pense qu'une solution constructive susceptible de conduire à la reprise des pourparlers de paix est la seule issue. Alors qu'est-ce que cela signifie? Que peut-on lire entre les lignes?
Pour l'instant, les Européens ne savent pas sur quel pied danser. Il y a une pression américaine, israélienne qui s'exerce sur certains États européens, mais il y a d'autres États européens qui considèrent que maintenant, il faut passer à une étape supérieure. Et les Européens l'ont proclamé à plusieurs reprises. Quant à l'appel de l'Europe à faire en sorte que cette proclamation se fasse par le biais de négociations, les Européens eux-mêmes sont conscients que depuis 18 ans que les Palestiniens négocient avec Israël, ils sont revenus toujours bredouilles et leur situation va de mal en pis. Et donc là, les Européens hésitent entre une alliance avec les États-Unis et le réalisme politique qui doit les inciter à soutenir la demande du peuple palestinien, qui est une demande logique et légitime à la fois sur le plan moral, sur le plan humain et sur le plan juridique.
Selon vous, comment cette Union européenne divisée sur la question palestinienne peut-elle se sortir finalement de cette situation?
Les Européens sont mis devant un test en ce qui concerne la crédibilité, la cohérence de leur nouvelle politique extérieure commune. Et je crois que là, encore une fois, il y a de forts risques que les Européens fassent étalage d'une division, ce qui naturellement n'est pas à l'avantage de l'image de l'Europe à l'extérieur et n'est pas favorable à la poursuite des politiques européennes dans l'espace méditerranéen.